en pissant. 9h42 ici à Paris. Tout de suite, le journal des sports. Les sports, c'est avec vous, Victor Misestrano. Et à la une, le football, ça y est, on connaît l'affiche de la finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain sera au rendez-vous.
Les Parisiens affronteront l'Inter Milan. Ils se sont donné le droit de rêver en venant à bout d'Arsenal. Hier, dans une ambiance des grands soirs au Parc des Princes, nouveau succès de Buzyn après celui du match aller 1-0. Fabian Ruiz et Achraf Hakimi ont marqué pour le PSG. Le latéral marocain a même été élu homme du match. Bukayo Saka a réduit la marque côté Gunners, mais Paris était bel et bien plus fort dans cette demi-finale.
Une demi-finale scrutée de près au Rwanda, puisque les deux clubs sont sponsorisés par Visit Rwanda.
Un partenariat controversé, d'autant plus depuis le début de l'année, face aux avancées territoriales du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. Mais à Kigali, ces contrats avec de grands clubs de foot font la fierté des supporters. Reportage dans un bar de la capitale, Lucie Mouillot.
Une foule de supporters portant pour beaucoup le maillot d'Arsenal avec sur les manches le logo Visit Rwanda. Pour Benjamin, la demi-finale entre le PSG et les Gunners, c'est une fierté pour le pays.
Visit Rwanda est promu par les deux équipes et je pense que c'est vraiment bien. Je suis très content d'être ici. Il y a tellement de potentiel avec Visit Rwanda pour le tourisme et l'hospitalité.
Si en Europe, certains font campagne auprès des clubs pour rompre le partenariat avec Kigali et dénoncent le soutien du Rwanda au M23, ces critiques paraissent très loin à Steve, supporter rwandais d'Arsenal.
On ne devrait pas mélanger le football et la politique. Il faut regarder au-delà de la politique et il faudrait pouvoir apprécier quand un pays africain est promu quelque part.
Victoire du PSG, à Kigali, les supporters exultent, d'autant que le club parisien a récemment renouvelé son partenariat avec Visit Rwanda.
Moi, je supporte le PSG. C'est très bien pour notre pays parce que ça nous aide à nous faire connaître. Beaucoup ne nous connaissent que comme l'endroit où des choses terribles se sont passées. Et on montre que notre pays grandit de plus en plus et qu'on devient plus fort.
Rendez-vous pris pour la finale le 31 mai. Un espoir pour les fans rwandais que le club partenaire de Visit Rwanda brandisse pour la première fois le trophée de la Ligue des Champions. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et cette finale PSG Inter Milan aura lieu à l'Allianz Arena de Munich.
Direction les Seychelles à présent pour la Coupe du Monde de Beach Soccer, début des choses sérieuses.
Avec les quarts de finale et un seul représentant africain encore en lice, le Sénégal, en pleine confiance après 3 victoires en autant de matchs. Les Lions qui font face à un candidat sérieux, l'Italie vice-championne du monde en titre, mais que les Sénégalais ont battu le mois dernier en amical. Contexte très différent aujourd'hui, prévient le sélectionneur N'Gala Sila.
Il faut se dire que le match amical n'a rien à voir avec le match de compétition. Il faut oublier cette victoire qu'on a gagnée sur l'Italie et considérer que l'Italie, c'est vice-champion du monde. C'est une équipe à respecter, c'est une équipe qu'on doit prendre très au sérieux. Il ne faut pas qu'on se focalise trop sur le match amical. Certes, il y a des enseignements que nous, les staff, on a tirés pour travailler sur des stratégies. Mais le plus important pour moi, c'est un autre tournoi qui commence et c'est un match qu'importe la manière dont il a gagné, l'essentiel c'est la gagne.
Propos recueillis par Babacar Fall, Sénégal-Italie, quart de finale du mondial de beach soccer. Le coup d'envoi, Andréane, c'est à 15h, temps universel.
Merci Victor Misistrano, belle journée à vous. C'était il y a 80 ans, très exactement, le 8 mai 1945, la France et les Alliés fêtaient leur victoire sur l'Allemagne nazie et ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Or, ce même 8 mai 1945, des manifestations indépendantistes éclataient en Algérie, des manifestations massivement réprimées par l'armée française. Des massacres ont lieu à Sétif, à Guelma et à Khérata, dans l'Est algérien, entraînant plusieurs milliers de morts. À l'occasion de la commémoration de ces massacres, un collectif de chercheurs et d'historiens spécialistes de l'Algérie et de la colonisation ont lancé un appel à la reconnaissance de ces crimes. Ouda Ibrahim nous raconte.
Selon les historiens de ce collectif, la France reste très en retard par rapport à la mémoire de ces crimes comparativement aux autres puissances coloniales. Il y a eu de reconnaissance partielle, avancent les historiens, comme pour l'assassinat des indépendantistes Larbi Boumendjel, Mahdi Belharbi et Maurice Audin. Mais il n'y a pas eu de reconnaissance pleine, entière et circonstanciée des crimes commis pendant cette période en Algérie. Pour l'historien Nils Anderson, le peuple français français n'est pas prêt.
Je crois qu'il y a aujourd'hui une situation plus difficile qu'elle n'était en 1962, au moment de l'indépendance. L'indépendance de l'Algérie reste un traumatisme dans l'opinion publique française. On constate qu'il y a des ressentiments anti-algériens en France, pays colonisateur, et je pense que c'est le rôle des responsables politiques d'abord, non pas de faire de la politique politicienne en exacerbant les sentiments identitaires et religieux, mais d'avoir le courage de reconnaître le fait colonial, ce que cela signifie comme répression lors de la guerre d'Algérie. Et ça, c'est nullement un acte de contrition ou de repentance, mais c'est simplement un acte moral de vérité.
Selon les universitaires, la bataille pour la reconnaissance des massacres en Algérie demeure cependant nécessaire pour de relations paisibles franco-algériennes, mais surtout pour une réconciliation des mémoires. C'est ce qu'explique l'historien de la colonisation, Olivier Lacour-Grandmaison.
Assurément, une reconnaissance par les plus hautes autorités de l'État des massacres commis le 8 mai 1945 contribuerait à améliorer les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Et il y a un autre volet. Il y a en France un nombre très important d'héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale qui sont français, mais qui ont des origines particulières, qui ont une histoire familiale parfois particulière en raison des conséquences de ces massacres. Cette histoire, globalement, demeure très peu enseignée dans les collèges et les lycées et pareillement dans les universités et qu'encore une fois, c'est perçu comme une discrimination mémorale et commémorielle pour les héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale.
Cet autre 8 mai et la répression massive des indépendantistes ont longtemps été occultés en France. Les massacres ont profondément marqué le peuple algérien et ont, selon les historiens, amorcé la guerre d'indépendance en Algérie.
Un dossier signé Ouda Ibrahim, RFI à Paris, il est 9h49, 8h49 à Alger.
RFI Matin.
En Éthiopie, les chiffres de l'export de café battent des records ces 9 derniers mois. Addis Abeba a enregistré 1,5 milliard de dollars de revenus, une première grâce notamment à l'explosion du cours mondial de l'Arabica. Des résultats dont se félicitent les autorités bien sûr, mais qui mettent à rude épreuve les gérants de coffee shop dans un pays où le café est une institution. Marlène Panara en a rencontré pour Afrique Économie.
Il est 10h et comme tous les matins, Meskil, tablier mauve autour de la taille, ouvre les portes de son local et allume la radio. Le café est prêt à accueillir les clients.
Mon café s'appelle Nabek Coffee Shop. Cela fait un peu plus de deux mois maintenant que je l'ai ouvert.
Dans son nouveau métier, cette ex-hôtesse d'accueil doit constamment s'adapter à la fluctuation des prix du café qu'elle se procure dans la région de Jima et dans un marché d'Addis Abeba.
Depuis cette année, les prix du café grimpent et descendent tout le temps, mais il y a deux ou trois mois, ils ont vraiment beaucoup augmenté. À Jima, le kilo coûte 650 birres. À Addis Abeba, au Chola Market, c'est entre 900 et 1000 birres. Avant, cela coûtait entre 600 et 700 birres à Addis et à Jima, 450 birres.
La hausse des prix de l'arabica, variété reine en Éthiopie, explique en partie cette augmentation. Le 25 novembre 2024, son prix de référence est monté à plus de 6,5 dollars le kilo, son plus haut niveau depuis 1997. Kirou Belsioum, chef des opérations au sein de la marque emblématique de café Tomoka, lie cette hausse à une pénurie globale de café.
Il y a des problèmes de production interne, à l'échelle mondiale aussi.
À cause des sécheresses qui ont touché le Brésil et le Vietnam, premiers producteurs mondiaux, la demande a dépassé l'offre. En Éthiopie, la dévaluation du birr appliquée fin juillet 2024 pour répondre aux exigences du FMI a également fait grimper les prix. Cette situation affecte autant les petits commerçants comme Meskil que les gros revendeurs comme Tomoka.
Cette année, c'est du jamais vu dans notre histoire. Le kilo, c'était à 300 jusqu'à 500 birr le kilo. Et maintenant, ça triplé.
Pour encaisser les chocs, l'entreprise n'a d'autre choix que d'augmenter le prix de la tasse.
On a essayé d'absorber ces coûts, mais on était forcé de réviser. Au début de l'année, c'était à 85 birres. Actuellement, là, c'est à 125.
Au Nabek Coffee Shop aussi, le prix de la tasse a augmenté, comme le détaille Zola, client quotidien de Meskil.
Aujourd'hui, c'est devenu très cher. La tasse est à 30 birres en Éthiopie.
L'augmentation des prix du café est très mal accueillie en Éthiopie, car dans ce pays, le café fait partie intégrante du quotidien, explique Zola.
Je suis accro au café et à la cérémonie du café. C'est un pan important de la culture et de la vie sociale.
L'Éthiopie est le premier producteur de café en Afrique et la moitié de ses récoltes est consommée localement. Marlène Panara, Addis Abeba, RFI.
Addis Abeba, où il est 10h52, musique. c'est l'un des grands maîtres de la guitare en France, Angelo De Bar, que l'on entend ici sur le titre La Manouche, accompagné par Serge Camps à la seconde guitare et par Franck Anastasio à la contrebasse. Tous trois viennent de sortir l'album Gypsy Guitar 2, et c'est votre choix musical ce matin. Bonjour Edmond Sadaka.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ce trio mené donc par Angelo De Bar est bien connu des amateurs de swing manouche.
Oui, car ces trois musiciens virtuoses avaient enregistré ensemble en 1989 un album devenu mythique intitulé Gypsy Guitar, tout simplement. Il a beaucoup contribué à la renaissance du style manouche inventé dans les années 30 par ce génie de la guitare qui était Django Reinhardt, style très acoustique, aujourd'hui d'ailleurs très populaire notamment auprès des jeunes, mais qui à l'époque était resté un peu confidentiel, comme l'explique le journaliste et guitariste Max Robin, fondateur du label West, et qui connaît par cœur l'histoire de cette musique.
C'était quand même réservé à des petits endroits, soit à la musique des caravanes, soit à des petits endroits, cafés, cabarets, petites scènes. Et là, d'un coup, avec des virtuoses très 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 pointues, d'un coup, il y a eu un éclairage, un peu le concept de guitare héros, si on peut dire. Du coup, le disque a transmis ça à beaucoup de gens, avec des morceaux qui sont restés très très populaires, comme La Gitane. Il y a une valse un peu virtuose sur ce premier album, hein, le premier Gypsy Guitar, ce qui s'appelait La Gitane. C'est vrai que la version d'Angelo a popularisé ça, et beaucoup de guitaristes ensuite se sont mis à copier et à rejouer ces morceaux sur ce moule-là, on dirait.
La Gitane, extrait du premier disque Gypsy Guitar, sorti, on le disait, en 89, avec le jeu flamboyant d'Angelo De Bar. C'est lui, d'ailleurs, qui a voulu donner une suite à l'album enregistré il y a plus de 30 ans.
Et pour cela, Angelo De Bar a tenu à travailler avec les mêmes musiciens, Serge Camps, donc à la seconde guitare, Franck Anastasio à la contrebasse, et il explique pourquoi ce choix.
Déjà, on s'est pas perdu de vue, vraiment, hein. On a tous fait une carrière parallèle, hein, dans notre métier. On s'était dit déjà, un jour, il faudrait qu'on fasse une suite à ce disque. Ça va faire plaisir à pas mal de gens. Et c'est un peu symbolique, presque 40 ans après, de reformer ce groupe. On a tenu à garder la même couleur musicale qu'avait le premier. On a travaillé longtemps ensemble, tous les trois. Donc, quelques années, tous les jours, parce qu'à l'époque, on jouait tous les soirs. Donc, on se connaît très bien, oui, on est comme de la famille, quoi, ensemble. Hein.
Suite hongroise, c'est le titre de ce morceau. C'est une pièce tzigane empruntée au folklore hongrois. On trouve aussi sur ce disque des reprises de morceaux du folklore roumain, mais aussi des compositions originales, 4 en tout. Elles sont signées Angelo De Bar, comme celle-ci qui est intitulée « Manège ». Thank you.
Manège, extrait de l'album Gypsy Guitar 2, sorti tout récemment. Merci à vous, Edmond Sadakar.
Merci, Andréane.
Le choix musical qui marque la fin de notre matinée ensemble. C'était un plaisir de l'avoir passé avec vous et avec Jean-Pierre Pellon à la réalisation ce matin, Grégory Lesca et Vincent Dublange à la rédaction en chef. La suite de vos programmes sur RFI, Anne Campner vous donne rendez-vous dès 11h, temps universel, pour une nouvelle tranche d'informations. Avant ça, dans 2 minutes, le journal présenté par Jeanne Bartoli. À la une, bien sûr, le football, parmi d'autres informations. Le conclave à Rome aussi, on en parle dans le journal. Et à 10h10, appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Bonjour Juan.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
Et ce matin, vous revenez donc avec les auditeurs sur le foot et le match historique. Hier, donc PSG-Arsenal, la victoire des Parisiens qui filent en finale, oui, retrouver l'Inter Milan.
Oui, et cette fois, c'est la bonne. Un PSG certes malmené, mais tout de même solide. Alors que vous inspire cette qualification? Êtes-vous surpris par le parcours des Parisiens cette saison en Ligue des Champions? Qu'avez-vous pensé de l'autre demi-finale bien plus spectaculaire entre l'Inter et le Barça? L'Inter qui affrontera donc le PSG en finale. Vos pronostics nous intéressent. Appelez-nous dès maintenant 33 9 693 693 70 et votez sur notre chaîne WhatsApp RFI Appel sur l'actualité. Andréane, bonne journée.
Belle journée à vous.
Merci.
Et à lundi.
À lundi dans une minute le journal.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
prendre soin de sa santé quand on est en situation de handicap.
Demain,
émission Questions de femmes, l'absence de désir d'enfant.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Du 14 au 24 mai, la quinzaine des cinéastes revient au Festival de Cannes pour sa 57e édition. La quinzaine, c'est une sélection de 30 films du monde entier ouverte au public pour fêter le cinéma dans toute sa diversité. Au programme, projection de courts et longs métrages, le choix du public et une carte blanche spéciale comédie avec Alain Chabat en invité spécial. La quinzaine des cinéastes du 14 au 24 mai. Plus d'informations sur quinzaine-cinéaste.fr. En partenariat avec RFI.